J'espère que le spectacle d'hier soir a plu à tout le monde. C'est vrai que c'est une manière formidable d'annoncer l'Évangile, mais c'est vrai aussi qu'il y a une autre manière de le faire, c'est la prédication. Alors je suis désolé, hein, je ne sais pas faire du théâtre, mais je vais faire selon le don que le Seigneur m'a donné. Ceci dit, nous pouvons remercier le Seigneur pour le don qu'il a donné à certains de nos frères, notamment Alain et Pierre-Philippe, ce don de transmettre le message par le théâtre. Et c'est vrai que les questions qui ont été abordées hier soir et encore ce matin nous font réfléchir, n'est-ce pas? Nous font réfléchir au sens de notre vie, à notre engagement, aux questions spirituelles qui se posent. Je crois que tout le monde se pose ce genre de questions. Et ce matin, je voudrais tisser quelques réflexions autour d'un thème qui nous concerne tous, un thème qui se trouve dans la Bible, notamment dans le livre des psaumes. Vous savez que dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle les psaumes. Et ce thème se trouve, par exemple, au chapitre 4 des psaumes, à partir du verset 7. Il s'agit de la recherche du bonheur. Ce psaume a été écrit il y a des milliers d'années par un roi qui s'appelait David. Et voici ce qu'il dit. Ils sont nombreux ceux qui demandent qui nous fera voir le bonheur. Ô Éternel, fais lever sur nous la lumière de ta face. Tu mets dans mon cœur de la joie plus qu'ils n'en ont jamais quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et je m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Qui nous fera voir le bonheur? Ce psaume écrit il y a bien longtemps, nous montre que la recherche du bonheur est aussi vieille que le monde. Elle a toujours été bien présente chez l'être humain depuis que le monde existe. La recherche du bonheur est toujours d'actualité, surtout dans nos sociétés matérialistes et hédonistes. Ceci dit, d'une manière ou d'une autre, partout dans le monde, l'homme affamé de bonheur se bat pour vivre heureux. Partout, chez tous les peuples de la terre, le bonheur, je dirais, la préoccupation première. Tout le monde se demande qui nous fera voir le bonheur. Les philosophes ont beaucoup réfléchi à cette question du bonheur. Il y a des livres et des dissertations qui ont été écrits sur ce thème. Récemment encore, un bac de philosophie traitait ce sujet du bonheur. Et pas plus loin que la semaine dernière, un journaliste interrogeait ses invités sur cette question-là, la question du bonheur. Chacun avait sa propre définition, mais de manière générale, tous définissaient le bonheur comme étant un état durable, de plénitude et de satisfaction, un état agréable et équilibré de l'esprit et du corps. Si cette définition semble être assez proche de ce qu'est le vrai bonheur, elle le limite au bien portant. Or, nous connaissons des hommes et des femmes un peu partout qui, au travers de souffrances vécues, ont appris à mieux saisir le sens de leur vie. Et ils vivent souvent dans un état de bonheur beaucoup plus profond que d'autres qui ne connaissent pas la souffrance, qui n'ont jamais souffert ou qui ont peu souffert. S'il nous est indispensable de méditer, bien sûr, sur ce que c'est que le bonheur, je dirais qu'il est bien plus important de chercher à découvrir comment l'obtenir concrètement dans nos vies. Comment vivre dans le bonheur? D'où l'importance de la question de ce psaume: qui nous fera voir le bonheur? Qui nous ouvrira la porte du bonheur? Ce roi David témoigne ici dans ce psaume de son expérience. Mais avant de voir ce qu'il nous dit, sa réponse est très intéressante à cette question, voyons d'abord la réponse que les uns et les autres donnent à la question du bonheur. D'une manière générale, les gens disent que pour vivre heureux, oh, il faut faire des études les plus poussées possibles. pour un jour pouvoir trouver un bon emploi afin d'assumer sa vie d'adulte le plus confortablement possible et avec le maximum de bonheur. Ou alors il faut apprendre un métier, un beau métier qui ne salit pas trop les mains et qui nous rapporte beaucoup de sous. Pour vivre heureux, il faut avoir une belle maison bien équipée, l'équipée de tout un tas de belles choses, avoir des appareils ultra-modernes, n'est-ce pas, qui nous facilitent la vie, créer un cadre de vie agréable, le plus agréable possible, sympa. Pour vivre heureux, il faut prendre le temps d'aller de temps en temps au théâtre, au cinéma, au restaurant, passer des moments agréables et heureux en famille, avec les copains. Il faut s'entourer d'un petit groupe de copains sympas, n'est-ce pas, pour faire la fête, des gens qui peuvent vraiment nous apporter le bonheur et la joie de vivre. Pour vivre heureux, il faut prendre des vacances le plus possible, et si possible, dans les endroits les plus exotiques de la planète, dans des îles paradisiaques, et aujourd'hui c'est possible. Pour vivre heureux, il faut avoir une belle voiture et la changer régulièrement pour avoir toujours le dernier modèle. Pour vivre heureux, il faut toujours avoir toujours le dernier cri en matière de portable, de télévision, d'ordinateur, sans oublier le fameux iPad, n'est-ce pas, qui vient de sortir. D'autres diraient même que pour vivre heureux, il faut s'expatrier dans d'autres pays où on paye moins d'impôts. Un pays où l'État ne pique pas nos sous, où on peut avoir des comptes bancaires bien garnis. Bref, chacun y va de sa conception du bonheur. On fait beaucoup de choses pour être heureux. Tout ce qu'on fait, je dirais, c'est pour être heureux. Nous le faisons en vue du bonheur. Et beaucoup se tournent même vers l'occulte, l'astrologie, l'horoscope, pour trouver satisfaction à leur quête de bonheur. Bref, l'être humain fait tout pour être heureux. Il a soif de bonheur. Et pourtant, malgré tout ce que nous faisons, malgré tout ce que nous avons, l'insatisfaction nous poursuit. Qui nous fera avoir le bonheur? Notre société d'abondance nous apporte beaucoup de choses, mais est-ce qu'elle nous apporte le vrai bonheur? Les progrès fantastiques de ces dernières années qui nous permettent de jouir aujourd'hui de conditions de vie formidables, bien meilleures que celles d'autrefois, n'est-ce pas? Est-ce que ces choses-là comblent notre vie d'intérieur, cette soif qu'on a de quelque chose d'autre? Depuis le début du XXe siècle, l'espérance de vie a progressé d'une vingtaine d'années, alors que le temps de travail calculé sur une année moyenne a diminué de moitié. Les progrès de la médecine nous permettent aujourd'hui d'avoir une meilleure santé. Nous sommes plusieurs fois plus riches que nos grands-parents et nous disposons d'une multitude de choses qu'ils n'ont pas connues. Est-ce que ces choses-là rendent notre vie plus heureuse? Est-ce que nous avons trouvé le bonheur dans ces choses-là? Comme dit la sagesse populaire, il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade, n'est-ce pas? Mais même riche et en bonne santé, nous continuons à nous demander qui nous fera voir le bonheur. Nous avons la possibilité de voyager un peu partout, de partir en vacances plusieurs fois chaque année. En hiver et en été, quand il y a des ponts comme ceux du mois de mai et des RTT, n'est-ce pas? Nous avons la possibilité de nous faire plaisir, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Pourtant, nous sommes toujours à la recherche du bonheur. Ces choses-là ne nous rendent pas vraiment heureux. Car une chose, c'est se faire plaisir, et une autre, c'est d'être heureux. François de Closet a écrit un livre intéressant intitulé « Le bonheur en plus ». Le bonheur en plus, dans lequel il nous montre qu'en France, entre la fin des années 30 et aujourd'hui, notre niveau de vie s'est multiplié par 5. Et il pose cette question, sommes-nous 5 fois plus heureux? La réponse, bien évidemment, c'est non. Nous ne sommes pas plus heureux. Comme disait l'autre, ce n'est pas parce qu'on n'est pas malheureux qu'on est heureux, n'est-ce pas? À l'intérieur de chacun de nous, il y a toujours cette question du psalmiste, qui nous fera voir le bonheur? On raconte qu'un roi du Moyen-Âge qui avait tout pour être heureux, des palais, des serviteurs, des richesses, le pouvoir, etc., n'était pas du tout heureux. Et un jour, il s'est mis dans la tête qu'il pouvait probablement être heureux s'il portait la chemise d'un homme vraiment heureux. Et donc, il a envoyé ses serviteurs un peu partout dans son royaume et même au-delà pour qu'il trouve un homme heureux et lui prenne sa chemise. Après avoir longuement cherché, ses serviteurs ont trouvé quelqu'un qui avait l'air vraiment d'être heureux. Mais cet homme-là ne portait pas de chemise. Il ne portait pas de chemise. Nous pensons souvent qu'en ayant ce que d'autres ont, nous pouvons être heureux. Et lorsque nous l'avons, nous arrivons à la conclusion que finalement ces choses-là ne nous procurent pas le vrai bonheur. Quelqu'un n'a-t-il pas dit que dans le cœur de l'homme, le cœur de l'homme est un abîme d'insatisfaction? Qui nous fera voir le bonheur? Dans notre quête de bonheur, nous nous efforçons de jouir d'une bonne santé, du bien-être matériel, physique, de la sécurité, de la réussite sociale et professionnelle, de l'amitié, de l'amour des autres. Et pourtant, chercher le bonheur ou la complète satisfaction dans ces choses-là est une quête sans fin. Un psychiatre a pu écrire « Un désir satisfait est déjà mort ». Un bonheur sans désir tombe en perte de vitesse. La satiété, en effet, la satiété engendre rapidement l'ennui, parfois même le dégoût. Bossuet a dit, le bonheur humain est composé de tant de pièces qu'il en manque toujours. Il en manque toujours. Oui, c'est vrai, surtout pour ceux qui cherchent un mauvais endroit. Pour ceux qui cherchent un mauvais endroit, nous nous trompons. Si nous cherchons le bonheur dans les jouissances de ce monde, dans la jouissance des biens matériels, le bonheur ne dépend pas uniquement de ce que nous possédons, ni des circonstances, soient-elles favorables, mais de certaines dispositions intérieures. De certaines dispositions intérieures. Que se passe-t-il dans le cœur de l'homme? Que se passe-t-il pour qu'il soit toujours en quête du bonheur? Qui nous ouvrira, qui nous fera voir le bonheur? Le roi David donne la réponse dans ce psaume. Remarquons qu'il ne dit pas comme nous souvent, qui nous fera voir le bonheur, mais qui nous fera voir le bonheur? Il y a là une grande différence. Il a compris qu'effectivement le bonheur, le vrai bonheur, ne se trouve pas dans les choses de ce monde, dans le matérialisme, dans l'abondance des biens, dans les plaisirs du monde. Le bonheur dépend d'une personne, Dieu lui-même. Le bonheur dépend de Dieu. David a fait l'expérience que celui qui se tourne vers Dieu voit son visage s'irradier de lumière. Il reçoit la joie, la paix, la confiance, l'espérance pour faire face à sa vie ici-bas, dans des circonstances parfois difficiles. Voici ce qu'il dit, ô Éternel, fais lever sur nous la lumière de ta face. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils en ont jamais quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et je m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Voilà l'expérience d'un homme qui a trouvé le bonheur. Un homme qui a trouvé la miséricorde divine, ses bienfaits, sa paix, un homme qui peut dormir tranquille parce qu'il se sent vivre dans les mains de Dieu, entre les mains de Dieu. Et il peut dormir tranquille parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes, Dieu dirige toutes choses. Pour lui, Dieu est la véritable source du bonheur. Cela nous permet de dire finalement, sans Dieu, nous ne sommes rien dans ce monde. Sans Dieu, nous pouvons avoir beaucoup de choses, nous faire plaisir dans beaucoup de domaines, mais nous serons toujours, toujours malheureux. Et la Bible, parole de Dieu, nous explique pourquoi nous sommes malheureux si nous vivons éloignés de Dieu. Et grâce à trois mots, Et ces trois mots sont la création, la chute et la rédemption. Ces trois mots qui résument finalement notre histoire, l'histoire de l'humanité. Grâce à ces trois mots, nous pouvons mieux comprendre en fait notre situation telle que la Bible la présente. Trois mots qui expliquent ce qui s'est passé avec l'homme depuis le début et ce qu'il doit faire pour trouver le véritable bonheur. Le mot création nous parle de notre origine, l'origine de l'homme, et répond à la question d'où venons-nous ? Une question que beaucoup se posent, que nous nous posons, d'où venons-nous ? Il nous dit que l'homme est venu à l'existence parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu l'a voulu. Dieu a voulu créer l'homme, comme dit le récit biblique, à son image et à sa ressemblance. Là où les athées que nous respectons mettent le mot hasard, accident, car selon eux, l'homme est issu d'un accident qui s'est produit quelque part dans l'univers, la Bible met le mot création. Dieu a créé. Et le premier verset de la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Alors, vous savez que le dictionnaire, ce que le dictionnaire dit sur le mot accident, il dit un événement malheureux et dommageable. Dans ce cas-là, comment voulez-vous être heureux si vous pensez être un accident produit quelque part dans l'univers, c'est-à-dire le produit d'un événement malheureux et dommageable? Peut-on être heureux comme ça? Voilà pourquoi il y a finalement pas mal de gens qui se sentent mal dans leur peau et qui se suicident aussi, dans beaucoup de nos pays, en France et dans beaucoup de pays européens, n'est-ce pas? On a mis dans leur tête, depuis leur enfance, que Dieu n'existe pas, ou alors que Dieu est mort, et que nous, les hommes, nous sommes le produit d'un accident. S'il n'y a personne là-haut qui nous a créés, s'il n'y a personne là-haut qui nous aime, c'est vrai que la vie ici-bas n'a aucun sens. Pourquoi faire? S'il n'y a personne qui nous a créés, s'il n'y a personne qui nous aime, alors, comme disait Jean-Paul Sartre, n'est-ce pas, la vie est absurde, elle est une nausée. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, et faisons beaucoup d'autres choses. S'il n'y a personne là-haut, faisons tout simplement ce qui nous passe par la tête. Ne tenons compte que de nos plaisirs égoïstes, n'est-ce pas? Parce que demain nous allons mourir. Mais dans ce cas-là, qui nous fera voir le bonheur? Lorsque la nuit dans notre chambre, sur notre lit, nous réfléchissons au sens de notre vie, au pourquoi de notre vie, qui nous fera voir le bonheur? Par contre, si l'on croit que Dieu nous a créés, notre vie en est complètement bouleversée, ça change tout. Car nous découvrirons que finalement la vie a un sens, celui que le Créateur a voulu lui donner. Nous découvrirons que la vie vaut la peine d'être vécue avec Dieu selon ses instructions que nous trouvons dans sa parole. Et finalement, nous accueillons la vie telle qu'elle est, tout simplement comme un cadeau, comme un don de Dieu. Et nous acceptons même ses limites, en sachant que Dieu est aux commandes, il sait ce qu'il a voulu avec en créant la vie. Le deuxième mot, c'est le mot chute, mot qui nous explique aussi la raison de notre état et les raisons de notre soif. C'est le mot péché qui apparaît plutôt dans la Bible. Le mot péché, mot qu'on n'aime pas beaucoup entendre aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors que notre société, si vous me permettez le mot, psychologisée, tente par tous les moyens de nous déculpabiliser, la Bible, elle dit les choses telles qu'elles sont. Elle dit que nous sommes pécheurs. L'homme est pécheur. Vous et moi, nous sommes pécheurs, c'est ce que la Bible dit. Pécheurs. La Bible dit les choses telles qu'elles sont. Et dans la Bible, ce mot veut dire que nous sommes tout simplement séparés, éloignés de Dieu. Nous sommes pécheurs, séparés et éloignés de Dieu. D'où notre perpétuelle insatisfaction. Nous vivons séparés de Dieu, nous sommes malheureux, parce que nous vivons séparés de notre Créateur. L'homme a dans son inconscient la nostalgie du jardin d'Éden quand il goûtait aux délices de la communion avec Dieu avant le péché, avant la chute de l'homme, comme disent les théologiens, par sa désobéissance et la remise en question de sa confiance envers le Créateur. Il s'est écarté du bonheur, parce que le bonheur se trouve en Dieu. Ce n'est qu'auprès de Dieu que nous trouvons la véritable source du bonheur. Il nous faut donc revenir à lui pour retrouver le bonheur. Vous savez, on sait aujourd'hui que les enfants, lorsqu'ils sont privés, lorsqu'ils grandissent privés de l'amour de leur père ou de leur mère, ils s'épanouissent non sans difficulté, parfois même avec beaucoup de difficultés, parfois même avec des problèmes psychologiques. Or, l'être humain peut être comparé à un enfant, n'est-ce pas, qui a besoin de l'amour de son père et de sa mère. Il a besoin de l'amour de celui qui lui a donné la vie. Blaise Pascal disait, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu et nul autre que lui ne peut le combler. La Bible affirme que nous portons en nous une dimension très importante de notre vie, la dimension spirituelle. Et tant que l'infini de Dieu ne sera pas venu remplir ce vide qui existe en nous, donner sens à cette dimension spirituelle, nous serons malheureux. Nous serons malheureux. Oui, il y a quelqu'un là-haut qui pense à nous. Oui, il y a quelqu'un là-haut qui nous aime, celui qui nous a créés, Dieu notre Père. Et nous avons besoin de lui pour vivre heureux. Nous avons besoin de vivre, pour vivre heureux, donc de rétablir cette relation avec notre Créateur. Dieu dit dans la Bible, par la bouche du prophète Jérémie, « Mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Voilà la situation de l'homme éloigné de son Créateur par le péché. Mais revenons à notre psaume. Le psalmiste prie ceci, « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Or, la Bible dit que Dieu a effectivement fait lever sur l'humanité sa lumière lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour porter à la croix les péchés de l'homme perdu, les péchés de l'humanité. Et c'est le mot rédemption, donc le troisième mot important dans l'histoire de l'humanité. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, en prophétisant sur Jésus, dira, lisons-nous dans la Bible, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. » Jésus est le soleil levant qui a visité la terre, qui a visité la terre. Il dira lui-même, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Sommes-nous conscients qu'il est venu pour nous sauver de nos péchés? Sommes-nous conscients que c'est grâce à ce qu'il a fait dans ce monde, grâce à son sacrifice sur la croix, que nous pouvons obtenir le salut et avec le salut, l'espérance, la paix, la joie, la vie éternelle, le bonheur. Dans un autre psaume, ce même psalmiste dit ceci, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'ampute pas le péché. » Qui nous fera avoir le bonheur? Qui nous fera avoir le bonheur? La Bible nous encourage à reconnaître notre situation telle qu'elle est. Nous sommes effectivement pécheurs. Elle nous encourage à confesser nos péchés au Seigneur et à lui dire tout simplement merci pour ce qu'il a fait pour nous délivrer de cette situation terrible dans laquelle nous nous trouvons, une situation qui nous mène à la mort, comme dit la parole de Dieu, et qui est due à nos péchés. Et la Bible nous appelle à la repentance, à la confession. repentance et à la confession, changement de vie, changement de direction, à dire au Seigneur, pardon Seigneur, pour ce que je fais et qui est contre ta volonté. Quand le fils prodigue est revenu à la maison, il n'a pas cherché des excuses, il n'a pas dit, tu sais papa, c'est la société qui m'a poussé à faire ça, c'est les copains, j'ai été entraîné. Il a dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Voilà, il a accepté la situation telle qu'elle, et il a confessé son péché. Ne cherchons pas d'excuses. Acceptons notre situation et tournons-nous vers Dieu. La Bible dit à propos de Jésus, celui qui n'avait pas connu de péché, Jésus-Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Dieu a mis sur lui les péchés de nous tous. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et il l'a fait par amour, parce qu'il veut que nous puissions retourner à cette communion première que nous avions avec lui. Je vous invite à la prière.